fin de match complètement folle ici au King Power. Oh, et Jamie Vardy entre dans la danse.
And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
PL Zone.
Aguero.
Salim Bongali, Florent Moussi.
À toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la Première Ligue, le plus beau des championnats au monde. Le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport les matchs. Le lundi, on se retrouve pour le débrief dans PL Zone en podcast sur toutes les plateformes d'écoute et l'appli RMC, évidemment, avec Flora Moussi. Salut Flora.
Hello à tous.
Salut Loïc Moreau.
Coucou.
Beaucoup de chiffres aujourd'hui, des chiffres fort intéressants comme d'habitude au final. Avec de nombreux autres intervenants également. Coucou à Samantha Svec, Tristan Tessier et Julie Dereau derrière la vitre. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin du podcast. Nous vous donnerons la liste des 4 buts sélectionnés pour le titre de plus beau but du mois d'octobre et les modalités de vote qui vont avec. Avant cela, dans PL Zone, le podcast épisode 3, on démarre par...
Si !
Un moment très fort de United, Bruno Fernandes, petit ballon par-dessus,
mais
Ronaldo,
oh, quel but magnifique !
Et Cristiano Ronaldo,
oh, non, non.
Sur une merveille de passe de Bruno Fernandes, le duo de génie portugais d'United en action, 1-0 pour les Red Devils, et c'est forcément Ronaldo qui conclut l'affaire.
Ce cri de Stephen Guy pour accompagner la large victoire de United 3-0 et surtout entériner le départ de Nuno Espirito Santo. Il était 10h51 ce lundi quand Tottenham a annoncé le départ du Portugais et de son staff. Avant d'en parler pleinement, Loïc, en chiffres, est-ce que c'est logique comme éviction ?
Bah, ça paraît même inévitable, hein, parce que si Tottenham était encore leader de PL fin août après 3 petites victoires 1-0, ces chiffres suscitaient déjà l'inquiétude et ça n'a fait qu'empirer en fait tout au long de ce début de saison. Tottenham est 8e. Nuno partage le pire bilan après 10 matchs pour un entraîneur de Spurs avec le Suisse Christian Gross, qui évoquera un nombre de choses autour de cette table. Et surtout, ne crée rien en fait dans le jeu, c'est ça qui est terrible. 0 tir cadré, on l'a vu face à Manchester United, mais même globalement c'est la deuxième pire attaque de PL, 9 buts, il n'y a que Norwich qui fait pire, 4e plus faible aux XG, je rappelle les XG, les expected goals, la qualité des occasions créées derrière Watford, Newcastle et Norwich, plus faible total de tirs avec Norwich là aussi, donc tu sais, c'est Tottenham-Norwich et la connexion. Et surtout, même au-delà donc, du fait de créer, même devant le but, c'est en termes de ce qu'ils donnent sur le terrain, c'est l'équipe qui a parcouru le moins de distance en PL cette saison, 1000 bornes seulement sur le total des 10 matchs. Donc les chiffres traduisent aussi ce mal-être et bah, le fait que Nuno, de toute façon, voilà, c'était programmé, il avait un peu une épée de Damoclès qui est tombée sur la tête.
En présentant le match samedi soir sur RMC Sport, Flora, on évoquait avec le sourire le lousico, puisqu'il y avait deux équipes qui étaient
surtout
mal.
Toi, c'est toi qui parlais.
C'est vrai, c'est moi qui parlais, qui utilisais ce terme, mais au final, c'est pas une surprise de le voir évincé.
Non, la surprise, c'était de le voir arriver à Tottenham, en fait. C'est la question qu'on s'est tous posée, nous, au début de saison. Quand on a vu Nuno débarquer sur le banc des Spurs, on s'est dit, oula, ça paraît un petit peu grand, quand même, le costume pour lui. On va quand même rappeler que la dernière saison qu'il fait avec Wolverhampton, elle n'est pas très bonne. Hein,
non, parce
que
pas
oui,
du
il
tout.
Fait, alors, c'est vrai qu'il remonte Wolverhampton de Championship en Première Ligue.
Il qualifie l'équipe pour l'Europa League aussi.
Exactement, qui était totalement inédit, historique pour eux. C'était génial. Mais déjà, il y avait un déclin, en fait, la saison dernière. Donc, c'est pour ça qu'on a été surpris de le voir arriver à Tottenham. Et on s'est dit, là, ça paraît quand même un petit peu gros pour lui.
Finalement, il est ainsi évincé. Qu'en dit la presse, tiens ? Bah oui, pour en parler de cette presse, Mathieu Foury, notre correspondant à Londres. Salut Mathieu.
Salut Salim, salut tout le monde.
Cette éviction, effectivement, là... comment on en parle en Angleterre ?
Bah on en parle déjà, c'était le premier sur la sackliste ce matin. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, pour le premier podcast, c'était
Steve Bruce, la semaine dernière. Et ça change très souvent en fait.
Ouais, c'est ça, ça change à toutes les semaines, à chaque podcast. Donc maintenant, c'est Dean Smith, on espère qu'il ne sautera pas non plus la semaine prochaine lui aussi. Mais la BBC disait donc Nuno viré pour avoir fourni du Nuno football, alors que Daniel Levy avait promis aux fans de Tottenham un football offensif, libre et divertissant. The Times note l'incapacité de Nuno à gérer les égos du vestiaire, avec notamment Harry Kane qui semble avoir traîné le spleen de son transfert depuis cet été, de son transfert avorté. Sky Sports qui note que c'est une montagne de problèmes accumulés sous les 4 mois de mandat qui ont poussé Daniel Levy à agir, à savoir les résultats, le style aussi. Hier, Roy Keane traitait Tottenham d'équipe ennuyante. Donc voilà pour le bilan de la presse, et il était très cru.
Oui, au moins ça le mérite d'être très clair dans ses propos. Alors juste, on va être très transparent avec nos auditeurs au moment de l'enregistrement de ce podcast. Et oui, c'est pas en direct. Le nouveau nom du remplaçant de Conte, c'est pas mal. Hein.
Ah, c'est easy.
Voilà, le nouveau nom pour remplacer Espirito Santo n'a pas été évoqué, mais le nom qui vient dans tous les esprits, c'est celui d'Antonio Conte, lui qui pourrait arriver très rapidement. Il faut rappeler que le communiqué de presse officiel n'a pas évoqué d'intérimaire. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute quelqu'un qui va arriver vraiment, surtout que Tottenham joue dès ce jeudi en Europa Conference League. Donc Antonio Conte, j'ai envie de dire quelqu'un qui connaît la PL.
Oui, alors ça va vite hein, quand même dans le football, parce qu'il était ultra fort apparemment le week-end dernier, Antonio Conte.
Et avant ça, à Newcastle
voilà,
aussi peut-être.
Ça va très vite, il a fait 3 clubs de PL en 10 jours et il ne sait pas trop où il va, Antonio Conte. A priori, là, ça se dirige quand même grandement vers Tottenham, lui qui a été champion, on le rappelle, avec Chelsea. Il a gagné la Cup également avec les Blues, donc il y a un vrai potentiel avec Antonio Conte. C'est un peu une valeur sûre quand il arrive, on sait qu'il voilà, va faire quelque chose. Maintenant, sur le long terme pour Tottenham, est-ce que c'est vraiment la solution recherchée pour vraiment construire ce club et l'installer dans les plus gros clubs de PL? Je ne sais pas, parce qu'il y fait toujours des mandats assez courts quand même, Antonio Conte.
Et justement, parmi ces mandats, l'Inter, Loïc Moreau, vous avez un regard précis et j'ai envie de dire amoureux avec les Nerazzurri. Vous le connaissez bien, Conte, où il a laissé des bons et des mauvais souvenirs aussi.
Mais en fait, tu parlais de beau football. Mathieu parlait de beau football, ce que voulait Daniel Levy avec Nuno. Et ben, en fait, il ne l'aura pas vraiment avec Antonio Conte, parce qu'il n'est pas réputé pour ce beau football, Antonio Conte. Il est réputé pour un football solide et un football qui gagne. Et le fait est qu'il remplit souvent ces deux cases, puisque ces équipes donc toujours articulées en 3-5-2 sont très solides défensivement. Le football proposé est un football on va dire plutôt de contre-attaque avec de la vitesse devant. Donc c'est vrai que si on regarde les joueurs de Tottenham dans l'effectif actuel, on se dit oui, ils ont les joueurs pour jouer en 3-5-2. Après voilà, ce sera pas football champagne. Ce qui est sûr, c'est qu'Antonio Conte, l'autorité, le charisme, l'aura, tout ça, il l'a. Mais par contre, c'est vrai que dans l'optique d'obtention de résultats, on peut dire qu'Antonio Conte a gagné quasiment partout où il est passé. Donc oui, potentiellement, c'est une très bon choix.
On a presque l'impression sur le court terme, ça peut être un super choix. Sur le moyen-long terme, ça peut être autre chose quand même, Flo.
Oui, après, Daniel Levy, je pense que lui, il veut parier aux plus urgents là maintenant. Ce qu'il veut, c'est installer Tottenham parmi les gros clubs de PL maintenant, ce qu'il avait cherché déjà à faire avant avec cette finale de Champions. Il était aussi arrivé globalement. Il y a une fin de cycle après le départ de Pochettino. Et au final, c'est ce qu'il cherche à reconstruire maintenant. Donc lui, il se dit, moi, je veux gagner, je veux m'installer. On va au plus pressé finalement. Antonio Conte, il est là, il est dispo, il y a moyen qu'on puisse gagner quelque chose avec lui, on y va. Et franchement, on peut pas lui donner tort forcément.
Enfin, ah non,
c'est
après,
un bon risque à prendre.
Après cette défaite de Tottenham face à United, Julien Laurence a rencontré Hugo Lloris et on a presque envie de dire que le limogeage de Espirito Santo sonne comme un déclic, surtout quand on lui pose la question à Lloris sur son ressenti après les sifflets lors de ce match.
Chacun vit avec ses émotions et les supporters aussi. Forcément, la réaction des supporters est provoquée par ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, voilà, c'est vraiment insuffisant et il va falloir se relever. Il va falloir se relever parce que le niveau est très, très élevé en Première Ligue et les moments de doute, il faut vite les régler.
Se relever avec un nouveau coach, donc peut-être Antonio Conte, on le saura tout prochainement. Nous, on va vraiment revenir sur le match même et au final, la victoire de United 3-0. Mathieu, vous étiez au stade pour RMC Sport. Racontez-nous l'atmosphère si particulière qu'il y avait dans ce Tottenham Hotspur Stadium.
Ouais, c'était la 4e fois qu'on allait voir Tottenham avec Julien Laurence. Alors, il y avait eu la surprise inaugurale contre City, ensuite défaite contre Chelsea, Arsenal, United. 9 buts encaissés au total, un marqué sur ces 3 matchs, et l'ambiance, on la sentait de plus en plus pesante, à l'extérieur comme à domicile. Et samedi, ça a juste éclaté, le public s'en est pris à l'équipe, à Nuno, au président. The Athletic disait « la nuit où les fans des Spurs en ont eu assez », et c'est exactement ça. Depuis le pied du wall, la fameuse tribune derrière le but, j'entendais les broncas sur le changement Lucas pour Bergwijn à la 54e, c'était terrible. Les chants « You don't know what you're doing » pour Nuno, les « We want Levy out » pendant toutes les 10 dernières minutes. Et d'ailleurs, après l'appel à la solidarité d'Hugo Lloris, une communauté de supporters lui a répondu sur Twitter. On a rempli le stade samedi. Notre soutien à Burnley en coupe mercredi était incroyable. On paye les billets les plus chers du pays. On reste toujours fidèles et vous nous laissez toujours tomber. Alors les supporters n'en pouvaient plus et ça allait exploser sans le renvoi de l'entraîneur.
Eh ben, ça va être bien hein, les prochains matchs à Tottenham. Hein, ouais, effectivement. Mais donc, côté United, cette victoire 3-0 Flora, avec OGS qui a tenté un truc, un 3-5-2 quoi.
Non mais incroyable, hein, tacticien hors pair, Ole Gunnar Solskjaer.
Il était pas connu pour ça quand même.
Mais j'en rigole, mais parce que c'est vrai que c'est ce qu'on attendait de lui, c'est le principal reproche qui est fait autour d'Ole Gunnar Solskjaer, c'est cette absence de réaction tactique, technique sur le terrain. On s'est dit à chaque fois il aligne quasiment les mêmes compos, il change un ou deux joueurs, mais il y a rien de, il y a pas de création finalement dans ce qu'il fait. Et là il l'a fait, il l'a tenté contre Tottenham avec ce 3-4-1-2, voilà, avec deux attaquants 70 ans à eux deux avec Ronaldo et Cavani en pointe. Et finalement, ça a un petit peu réglé tous les problèmes qu'on avait pointé du doigt, Loïc, la semaine dernière face à Liverpool. Ce manque de pressing, bah Cavani il est là, lui donne tout ce qu'il a quand il est sur le terrain. Mais après, c'est vrai que du coup, c'est Exit, Rashford, Greenwood qui sont les petites pépites du club et qui du coup sont un petit peu. Voilà, ils sont rentrés. Enfin, Rashford est rentré en cours de match, mais du coup, ça les exclut aussi un petit peu de ce système.
Flora a parlé de cette stat, les chiffres, l'âge des vieux devant.
Bah ouais, 70 ans cumulés, 36 pour Ronaldo, 34 pour Cavani. Et c'est la première fois que deux joueurs âgés de 34 ans ou plus combinent sur un but en PL pour Manchester United. Depuis Paul Scholes, 35 printemps, et Ryan Giggs, 36 ans contre Newcastle en août 2010. Ça rappelle les grandes heures en fait de cette équipe des Red Devils. Mais sur la collaboration Cristiano-Cavani, effectivement, il y a une passe décisive du premier vers le second. Mais sur l'ensemble du match, ils ne se sont échangés que 3 passes en 71 minutes jouées ensemble. Donc pour l'instant, effectivement, ils ont été bons contre Tottenham, mais leur entente est encore à parfaire si elle est reconduite. Et surtout, voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est Tottenham. C'était Romero qui était en difficulté. Là, face à un adversaire comme City ce week-end, ça risque d'être peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, comme disait Flora, le choix est audacieux et il a payé.
Et justement, c'est pour ça que Ole Gunnar Solskjaer était satisfait après la partie.
Vous savez, on a besoin de régularité. On a besoin de ce genre de performance encore, encore et encore. On en a parlé après le match contre l'Atalanta, une bonne victoire, remonter 3 buts alors qu'on perdait 2-0. Ensuite, on a joué Liverpool, un jour très très sombre pour nous tous. Aujourd'hui, nous avons gagné. La prochaine étape, c'est la Champions League mardi. On ne peut pas profiter du goût de la victoire trop longtemps parce qu'à partir de demain, nos yeux seront braqués sur l'Italie.
On a déjà entrévoqué le cas Cristiano Ronaldo, celui qui voulait faire fermer des bouches la semaine passée face à Liverpool. Il ne l'a pas fait, en fait, il a anticipé d'une semaine. Ouais, il est comme ça, Ronaldo, il anticipe et tout. C'est vrai qu'il a fait taire beaucoup de gens, Flora, quand même.
Mais oui, mais c'est ça, en fait, que recherche aussi United en le faisant venir. C'est cette mentalité-là de vainqueur. On l'a vu sur le terrain, on avait montré les images en caméra isolée. Il était fou, en fait, sur les buts concédés face à Liverpool. Il était comme un dingue. Je pense que ça a dû bien gueuler aussi dans le vestiaire, parce que lui, avec son expérience et son vécu, il sait que ce genre de match, il faut réagir tout de suite derrière parce que sinon ça peut engendrer une crise énorme par la suite. Il l'a montré sur le terrain, on a vu des joueurs, parce qu'il n'y a pas que lui finalement, même Varane quand il était titulaire, il a été vraiment le patron de cette défense centrale, plus que Maguire d'ailleurs. Cavani en pointe évidemment, toujours en train de se battre, et c'est ça en fait qu'on veut avec Ronaldo. Bien sûr que le mec il est ultra efficace sur le terrain, enfin il en est déjà à 7 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues. On se dit voilà, il est venu pour ça, mais il est venu aussi pour cette mentalité là et c'est ce qui change tout en fait à United avec lui.
United qui évoluera samedi prochain à 13h30, ce sera face à City. Parlons des Sky Blues, tiens.
La balle de 2-0, est-ce qu'elle va quand même revenir avec Gallagher?
Oui,
ils vont le faire, oui, ils sont en passe de réaliser l'exploit. Le comeback gagnant à Manchester City de Patrick Vieira et le 200e match en Premier League gâché pour Pep Guardiola.
Vous avez reconnu la voix de Jérôme Sillon qui est en notre compagnie. Jérôme, bonjour.
Bonjour à tous.
On a l'impression que dans cette partie, cette défaite de City 2-0, City aurait pu jouer longtemps, très longtemps même, sans marquer.
C'est une nouveauté de cette saison qui est assez perturbante. On avait l'habitude, depuis l'arrivée de Guardiola, de voir City enchaîner les buts, enquiller les buts, enquiller les matchs à 3, 4, 5 buts. Et cette saison, il se passe un truc assez bizarre, c'est que City, c'est tout l'un ou l'autre. C'est soit ils mettent 4 buts à Brighton, soit ils n'arrivent pas à mettre un pion. Donc il se passe quelque chose, et c'est vrai qu'on est un peu perturbé par cette histoire-là. Je crois qu'ils en sont déjà à 6 ou 7 matchs sans marquer, toute compétition confondue depuis le début de la saison. C'est quand même énorme. Et donc, face à Crystal Palace, on a ressenti vraiment un sentiment d'impuissance totale. Alors oui, il y a ce but qui est refusé pour hors-jeu de Phil Foden, mais c'était quasiment la seule action construite. Il y a vraiment un manque de complicité, d'automatisme qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui interroge fortement quand on voit jouer City cette saison.
Avant le match, on se disait, bon, s'il n'y a pas de neuf, c'est pas grave, City peut marquer et l'a fait tout au long de cette saison et même la saison dernière. Mais là, ça devient quand même un poil embêtant quand même.
Non, mais je rejoins Jérôme, en fait, nous, on a préparé voilà, le conducteur de PL Live de ce week-end en se disant mais qu'est-ce qu'on peut raconter sur City ? C'est tellement inconstant en fait. Et peut-être qu'on pourrait se dire bah, c'est qu'une défaite. Voilà. C'était le même trio contre Brighton, ils en mettent 4 au final. Donc on se dit bah, il n'y a pas de raison vraiment, il n'y a pas d'explication logique à ce qu'ils n'arrivent pas à la marquer cette fois-ci contre Crystal Palace. Et c'est vrai que quand on cherche. Bah on ne sait pas en fait, enfin, juste, c'est peut-être juste une inconstance, peut-être. Mais le problème c'est que les autres équipes à côté bah, continuent d'avancer et que du coup bah, City, eux, ils marquent un petit peu le pas. Et c'est vrai Jérôme, tu as raison, quand on voit l'armada offensive qu'il y a en fait sur le papier à City, mais c'est quoi le problème ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Personnellement, je n'ai pas la réponse.
Vous vous souvenez de la une du Times après, en tout début de saison quand City gagne 5-0 et cette question en une du Times, « Who needs Kane ?» Voilà. Qui a besoin d'Harry Kane ? Peut-être qu'ils en auraient besoin finalement.
Oui, et peut-être que l'une des cibles ou l'une des critiques dans la presse anglaise, Mathieu Foury, c'est peut-être un Belge, non ?
Ouais, c'est ça, Salim, parce que c'est vrai que ce match a beaucoup ressemblé à une partie de hand dans laquelle on rentrait jamais dans l'axe pour Manchester City. Et forcément, ça tombe aussi sur les dépositaires du jeu, avec Kevin De Bruyne en premier. On pointe le fait qu'il est performant avec la sélection belge, mais qu'il est beaucoup moins influent sous Manchester City. Et Jack Grealish aussi, 100 millions de livres, record pour la Première Ligue, un but, une passe D pour le moment. Mais sur De Bruyne, on note que son match a été maladroit dans la presse, pas assez influent par rapport à d'habitude, même placé un peu trop en retrait du jeu et qui semble être un peu dans le creux de la vague sur arriver à un quart de la saison.
C'est vrai qu'on le cible, il a été si fort, il est normalement si fort Loïc, mais sauf depuis le début de cette saison.
Bah, c'est pas terrible effectivement, il a joué 7 matchs, il a marqué 2 buts, il a pas fait de passe décisive, c'est plutôt la stat qui interpelle pour lui hein, quand on sait à quel point il est doué dans la distribution. Il y a qu'en 2018-2019 qu'il avait des temps de passage moins bons, il avait marqué un but lors de ses 7 premiers matchs et au final cette saison 2018-2019 elle caractérise aussi un peu le fait que City ait un peu le cul entre deux chaises. Si peux me permettre.
Le fessier entre deux chaises.
Il avait joué la moitié des matchs lors de cette saison-là. Il avait totalisé 2 buts de passe D sur 19 matchs, ce qui est très peu pour Kevin De Bruyne. Et pourtant, bah, City avait été champion. Et Bernardo Silva était sorti un peu justement des tiroirs pour prendre sa place. Donc, De Bruyne est certes moins bon, mais c'est pas une condition sine qua non pour City pour gagner. Bon, là, forcément, les deux à la fois City gagne pas et De Bruyne est moins bon. Mais bon, encore une fois, là, sur le match en question contre Crystal Palace, effectivement, il a été sorti tôt, il a perdu beaucoup de ballons. Est-ce qu'au niveau de son positionnement, il était censé être derrière Jesus, il a été devant Jesus dans les faits, en termes de ballons touchés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi tactiquement des choses, des ajustements encore à faire, ça on le verra sans doute sur, bah, notamment contre Manchester.
Et on a posé cette question sur le cas De Bruyne à notre consultant phare de la Première Ligue, Manu Petit, qui défend ô combien le Belge.
Bah, c'est très simple, il a joué l'année dernière avec pas mal de blessures, il s'est blessé pendant l'Euro, et il a joué même avec des blessures avec la Belgique pendant l'Euro, on a vu ce que ça a donné derrière, il n'a pas vraiment pris le temps de se régénérer et de se soigner physiquement. Et je trouve qu'il traîne justement ces problèmes physiques à répétition. Ça me rappelle un peu N'Golo Kanté quand il jouait blessé, qu'à un moment donné, il a dû s'arrêter pour de bon pour se régénérer. Moi, je pense que Kevin De Bruyne, ses blessures à répétition ces derniers mois, elles sont en train de peser aujourd'hui.
C'est tout simplement les blessures, c'est ça, simplement ?
Oui, il y a de ça. Il y a le contre-coup de ce tampon de Rudiger en finale de la Ligue des Champions. Il y a... voilà, c'est vrai que ce qui était flagrant, nous, on a commenté le match avec Kevin Diaz samedi. Et franchement, on le voyait lourdeau, en fait, presque un peu empâté. C'était vraiment très déstabilisant, là aussi, de voir De Bruyne dans cet état-là. Donc, ouais, je pense qu'il y a toutes ces blessures. Il y a aussi l'enchaînement des saisons. Hein. De Bruyne, il a un niveau de performance qui est monstrueux. Il ne faut quand même pas oublier que c'est le meilleur passeur de Première Ligue depuis qu'il est en Angleterre. Donc, il a un niveau moyen qui est quand même faramineux. C'est un joueur que défend Guardiola et il a raison parce que de toute façon, il ne peut pas rester à ce niveau-là, Kevin De Bruyne. Donc, je ne suis pas très inquiet. En revanche, il y a une stat intéressante, c'est la première fois que Guardiola le sort aussitôt dans un match. C'est le joueur que Guardiola a le plus souvent remplacé depuis qu'il est l'entraîneur de Manchester City. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, De Bruyne, c'est celui qui sort le plus souvent, mais c'est souvent parce que c'est en fin de match, il faut le reposer, ou alors parce qu'il s'est blessé. Là, c'est la première fois à l'heure de jeu. Mais pour rebondir sur ce que disait Loïc, la saison dernière, quand De Bruyne était blessé en début de saison, il y avait Gundogan qui portait Manchester City. Là, pourquoi il n'est pas entré, Gundogan ? Parce que Gundogan revient de blessure aussi. Donc peut-être que quand il y aura un rééquilibrage, que Gundogan sera là, ça, voilà, avec un petit peu de temps.
En gros, pas de panique, Flora.
Non, pas de panique, mais après... On a tellement été habitué avec Kevin De Bruyne à des statistiques stratosphériques tous les ans. On l'a encensé, nous, l'année dernière. Il était tellement bon que forcément, ça se voit tout de suite en fait, quand un joueur est un peu en deçà de ses performances habituelles. Donc, on est un petit peu dur à aller chercher voilà, la petite bête avec lui. Moi, je pense que effectivement, le côté physique et enchaînement des saisons, je te rejoins totalement, Jérôme. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période... Enfin, ça s'est enchaîné quand même super vite. Et il y a des joueurs qui donnent tellement comme ça qu'au bout d'un moment, c'est obligé qu'il y ait un coup de moins bien.
Parlons de l'équipe quand même qui a gagné ce match. Palace, qui est allé s'imposer à City 2-0, Mathieu Foury. Énorme exploit de la part des hommes de Vieira.
Bah totalement, j'en parle un petit peu avec Saïd Egoun, l'ancien de la maison qui est l'adjoint de Crystal Palace et responsable de la vidéo, responsable adjoint de Patrick Vieira. Il me disait la première instruction c'était le pressing sur les défenseurs centraux de City et pendant les 10 premières minutes c'est ce qu'ils font incessamment. Et c'est Conor Gallagher qui récupère le ballon en allant chercher dans les pieds de Laporte sur le premier but, on est dans l'entame de match et c'est là-dessus que Zaha va ouvrir le score. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut souligner les changements de Patrick Vieira qui payent. C'est vrai qu'ils ont été malchanceux sur les derniers matchs. Égalisation dans toute fin de match contre Arsenal, rejoint aussi sur leur pelouse par Newcastle. Et là, une récompense sur la pelouse de City, c'est le top.
Et Patrick Vieira le disait, le sous-entendait, ça lui a fait du bien cette victoire.
On savait que ce serait important pour nous de défendre correctement et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout le mérite revient aux joueurs. Le match d'aujourd'hui montre bien l'état d'esprit du vestiaire. On a accepté de souffrir, on a accepté de travailler dur et on a été récompensé grâce à l'éthique de travail qu'on a montré aujourd'hui.
Loïc, cette équipe de Palace, en chiffres, en tout cas, ça performe.
Ben, ça perd plus, surtout. C'est ça qui est assez impressionnant sous Vieira. 2 défaites sur ses 10 premiers matchs cette saison pour 2 victoires et 6 nuls. C'est le plus faible total de défaites pour Palace depuis 90-91, époque où les Eagles avaient fini 3e avec des joueurs comme Gareth Southgate, comme Stan Collymore ou Ian Wright. Donc une équipe assez solide.
Cette équipe de Palace, c'est vrai Jérôme, cette impression vraiment de puissance, d'efficacité aussi de Palace retrouvée.
Moi j'ai adoré la mentalité de cette équipe-là qui ne s'est pas laissée faire. On voit trop d'équipes qui arrivent à Manchester City battues d'avance et là en fait, comme le disait Mathieu Foury avec les consignes de Saïd Aïgoun et de Patrick Vieira, il fallait harceler les défenseurs de Manchester City, aller les chercher, aller les presser et c'est vrai que le bloc était très haut placé sur le terrain. Ils ont pris le risque d'avoir de la profondeur derrière parce qu'ils savent aussi que City aime bien combiner, faire tourner et prend peu la profondeur mine de rien et donc ça a un plan de jeu vraiment remarquable et surtout une mentalité exemplaire. Aucun complexe d'infériorité alors que c'est une équipe qui a été rajeunie avec des joueurs comme Mark Gay, comme Tyreek Mitchell en défense. Donc vraiment bravo, super boulot de Patrick Vieira.
Palace qui évoluera samedi prochain à domicile face à Wolverhampton quand donc City se déplacera sur la pelouse de United Old Trafford. Merci beaucoup Jérôme Sillon. Nous on va continuer d'évoquer un club londonien qui gagne.
Avec Alexandre Lacazette, le petit crochet Lacazette dans un mouchoir de poche. Emile Smith-Rowe, Arsenal sur sa lancée, Arsenal ne s'arrête plus. Et le baby Gunners, Smith-Rowe donne un peu plus d'aisance aux Gunners dans cette partie.
Julien Taxis qui était au commentaire de cette rencontre entre les Foxes et les Gunners. Bonjour Julien.
Salut les amis.
Cette première période, mais quel kiff de la part des Gunners.
Ouais, et on se souvient de Mikel Arteta qui disait la semaine précédente après la victoire contre Villa, c'est notre meilleur période mi-temps de la saison. Je pense que là, on a encore franchi un cap. Même s'il y a une marge de progression, je pense, dans l'animation offensive, notamment dans la complémentarité ou l'association entre Aubameyang et Lacazette, dans l'état d'esprit, dans la cohésion, la solidarité, la capacité à presser. On a revu des joueurs faire les efforts. Je pense notamment à Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a pas fait un grand match, mais qui a été l'exemple, finalement, le brassard de capitaine enfin porté... la manière qu'il le faut, tout simplement, par Pierre-Emerick Aubameyang. Un collectif, vraiment, qui a travaillé tout au long de cette mi-temps et puis qui s'est reposé aussi sur certains cadres.
C'est vrai, Flora, il y a quelques semaines, ça va vite. On se disait,
c'est ce que
Arteta va-t-il
dire.
Tenir ouais. Est-ce que cette équipe va tenir? Et au final, on en est là.
Non, mais c'est dingue. Et en plus, surtout, on en a parlé avec Manu Petit ce week-end, on essaie de savoir à quel moment est venu le déclic en fait, du côté d'Arsenal, parce qu'il n'y a pas eu de vrais faits marquants ou pas. Ça s'est fait finalement au fur et à mesure, mais on a l'impression, en fait, là, cette saison, de voir toutes les saisons précédentes avec Arteta à la tête. Il y a toujours eu ça, en fait, des moments où ça va bien, des moments où ça va beaucoup moins bien. On se dit, ça y est, il va se faire virer. On a eu ça, je ne sais pas combien de fois depuis qu'il est arrivé. Et finalement, non, ça repart encore, mais c'est très inconstant, en fait, Arsenal. Et on se dit qu'il y a un tout petit moment, un petit truc qui va venir un peu dérégler la machine, et hop, ça va être reparti pour la crise.
Mais les choix d'Arteta qui sont salués également dans la presse, Mathieu.
C'est ça, comme disait Flora, à Arsenal, on alterne entre les mauvaises périodes. Et là, maintenant, on espère une bonne période avec de la stabilité, avec notamment Lacazette qui a été reconduit derrière Aubameyang dans son système, dans un système où ce rôle de joueur d'appui lui va très bien et aide beaucoup l'équipe. Il y a aussi ce sentiment de légèreté un petit peu en ce moment autour d'Arsenal en Angleterre. On parle bien d'Arteta, d'un jeu qui prend forme, d'un 11 sur lequel on peut se baser sur la durée. On est enfin sur une dynamique positive, même si Arteta le rappelle, on n'a encore rien fait. On n'est pas encore à la place que l'on veut, on continue de travailler. Et le classique, on prend match après match.
Une dynamique positive. Et en plus, Arsenal s'est découvert une manière de marquer sur un coup de pied arrêté.
Ben ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que les choses qu'ils ont mis en place en début de saison ne sont pas en train de porter leurs fruits? Parce que par exemple, les coups de pied arrêtés, c'est vraiment un aspect sur lequel, je parle des coups de pied arrêtés offensifs. Arsenal n'était pas bon la saison passée. C'était la deuxième pire équipe en pourcentage de buts marqués sur CPA. C'était 22% seulement. Il n'y avait que Tottenham qui faisait pire 19%. Là, cette saison, c'est la moitié des buts, 50% des buts d'Arsenal qui ont été marqués sur phase arrêtée offensive, donc 6 sur 12. Il n'y a que Norwich qui fait mieux, mais Norwich a marqué 3 buts, donc bon, autant dire qu'Arsenal est leader à ce niveau-là, et Arsenal le doit peut-être, et sans doute même à son entraîneur des coups de pied arrêtés, qui est arrivé cet été, il est français, c'est Nicolas Jauvert. Il officiait auparavant Manchester City, il a été analyste vidéo de Montpellier aussi, et donc il fait partie de ces recrues d'Arteta, c'est Arteta qui l'a ramené à Arsenal, et visiblement, bah, à force de travail, eh ben, c'est un aspect qui devient un vrai atout pour les Gunners.
Mais il y a un autre atout désormais, il faut l'évoquer. Je fais mon mea culpa au micro et je pense que je ne vais pas être le seul. Le cas Aaron Ramsdale. Il faut reconnaître que quand il est arrivé, ben, au final, son palmarès, c'était 2 relégations de rang. Au final, Loïc, et je me vois en train de vous voir être trituré. Qu'est-ce que je vais sortir comme stat positif sur Ramsdale? Mais vous en trouviez pas, en fait.
Ah bah non, j'en ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Hein. Effectivement, on a été pressionné par notre chef pour trouver des aspects dans lesquels, effectivement, Aaron Ramsdale pouvait justifier en fait l'argent qui avait été mis sur lui. Et c'est vrai que, mea culpa aussi, Salim, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. On n'avait pas les stats à disposition. Les seules choses dans lesquelles il ressortait, c'était sa grande expérience pour son âge. Parce que chez les gardiens de moins de 23 ans, c'était celui qui en avait disputé le plus dans les 5 grands championnats depuis 2019-2020. Et c'est vrai, et sa capacité à faire des arrêts puisqu'il subissait beaucoup de tirs. Mais ça, en soi, ce n'est pas des choses qui vont définir un bon ou un mauvais gardien. Même dans les chiffres, on a été creusé. Mm-hmm. Et finalement, on a vu contre Leicester, Julien, l'arrêt de fou qu'il fait. Mais il y a la beauté de l'arrêt, il y a la qualité de l'arrêt. Et si on regarde sur la saison de PL, il a évité 2,64 buts à son équipe cette saison, si on prend les expected goals, donc la qualité des occasions subies. C'est le deuxième meilleur ratio derrière le gardien de Chelsea, Edouard Mendy. Donc là, on commence à voir des chiffres qui montrent à quel point il est important et son recrutement était bien vu.
Deux choses, je pense, aussi sur Ramsdale. On s'était demandé s'il n'avait pas été pris aussi pour sa qualité de jeu au pied. On savait que Bernd Leno était de loin, enfin, c'était pas le plus mauvais, clairement, dans ce registre-là. On l'a vu contre Leicester, il tente énormément au pied. Alors, il y a du déchet, mais parfois, il est capable de vous trouver des angles de passe et de casser des lignes pour mettre le ballon dans les pieds à un coéquipier à 20-30 mètres devant. Et puis, autre chose, je pense aussi, c'est le caractère, l'attitude d'Aaron Ramsdale. Là où on avait un Bernd Leno assez froid, assez stoïque, assez flegmatique, lui dégage autre chose. On le voit survolter, on le voit insuffler, essayer de transmettre des choses à ses coéquipiers. Après l'arrêt exceptionnel qu'il réalise sur le coup franc de Madison, bah il est en feu forcément et on sent que ça déteint un petit peu sur ses coéquipiers. Là où Leno, je ne veux pas dire ne dégageait rien, mais moins de choses que Aaron Ramsdale.
La confiance aussi, il fait 8 matchs avec Arsenal, il n'en perd aucun. 5 clean sheets au total pour lui. On ne l'attendait pas à ce niveau-là, il répond présent et c'est vrai, Julien, tu as raison. Moi, j'ai cette image du match face à Leicester où il se fait chambrer par les supporters quand il dégage et puis il chambre avec eux parce que ça le fait rire en fait, mais parce qu'il est tellement en confiance, on a l'impression pour sortir un arrêt comme il l'a fait. Enfin, vous allez sur Twitter, vous voyez la photo dans tous les sens, c'est incroyable. Il faut une confiance énorme en fait pour arriver à faire ce genre d'arrêt aussi à ce moment-là.
Et il l'a fait comme il le fallait. Les Gunners qui évolueront dimanche prochain, 15h face à Watford, ce sera à vivre dans le multizone sur RMC Sport. Merci beaucoup,
avec
Julien. On continue avec un club qui va un poil moins bien.
Mouépou en première. Attention ! Le but ! Magnifique Denaké, Mouépou ! En tous les cas, il relance le suspense.
Et il a plus que relancé suspense, Cenk Mwepu, pardon, avec l'égalisation de Brighton. 2-2, score final. Oui, Liverpool qui était tranquille dans ce match, qui menait 2-0. On va être honnête, Flora, pendant le multizone, il y avait 5 matchs. On se disait presque, on va mettre un poil de côté cette rencontre et regarder plutôt le match de Chelsea, le match de City. Et au final, on était surpris.
Mais non, parce que moi, je connais la Première Ligue. Je sais qu'il peut se passer des choses à chaque fois dans ces matchs de Première Ligue. Alors non, mais sérieusement, oui, il y a 2-0, puis il doit y avoir 3 ou 4-0 à un moment. Il rate plusieurs occasions, il y a un but qui est refusé c'était aussi si Loïc, il y a un but qui est refusé. Oui, il y a un but qui est refusé. Oui, il est bien hors jeu, mais voilà, on se dit qu'il peut y avoir 3-0 à ce moment-là. Et finalement, en fait, Liverpool s'installe un petit peu dans son match, se dit c'est bon, on a fait l'essentiel, etc. Et puis à Brighton, il y a ce but de dingue qui arrive, etc. Puis il lâche rien, en fait. Et puis, c'est pas une surprise, on en parlera après, mais Brighton, on sait de quoi ils sont capables cette saison. Donc je trouve ça un peu présomptueux de la part de Liverpool d'avoir cru, effectivement, après 2-0, que c'était terminé.
Mathieu, en plus, c'est pas la première fois que ça arrive au final.
Non, ça rappelle un petit peu le match contre Brentford il y a à peu près un mois où Liverpool mène 2 fois au score et se fait rejoindre 3-0 au final. Et à chaque fois, la défense qui est un petit peu prise en difficulté, un peu en retard et un peu moins en jambes. On voit sur le premier but contre Brighton, c'est pas de chance sur la frappe d'Mwepu. Mais sur le deuxième, il y a toute l'équipe de Brighton qui se projette dans la surface alors que Liverpool revient plus lentement. Au départ de l'action, c'est Henderson qui suit Trossard, en trottinant. Et résultat, Van Dijk qui se retrouve tout seul à couvrir Lallana qui porte le ballon. Trossard qui arrive derrière lui et forcément, ça fait but.
Et au niveau des stats, cette défense de Liverpool, on en dit quoi, Loïc ?
C'est vrai que Mathieu évoquait Brentford, là il y a Brighton, et ça fait au total 6 points de perdu après avoir mené au score en PL cette saison. Il n'y a que Burnley, Newcastle et Southampton qui en ont perdu plus dans ces situations. Donc quand on est associé à ce genre d'équipe, ce n'est pas forcément bon signe. C'est plus déjà 6 points de perdu, c'est plus que la saison où ils ont été champions. Donc ils n'en avaient perdu que 5 sur l'intégralité de l'exercice, et autant que la précédente, où ils avaient fini deuxième derrière Manchester City avec 97 points, donc un seul point en moins. Et chaque point compte, on le sait, dans cette bien course au titre, surtout en PL. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'alerte à Liverpool. Ils ont gagné 5-0 le week-end dernier. Là, ils font match nul. Mais encore une fois, voilà, c'est des points perdus, c'est dommage. La défense, comme le disait Mathieu, n'est pas forcément la plus rassurante. Et au final, ça risque de compter.
Défense pas rassurante parce que Brighton, Flora, a voulu jouer jusqu'au bout. Et Brighton a été épatant alors qu'il venait d'en prendre 4 contre City la semaine précédente.
Mais c'est le jeu en fait de Brighton, c'est ça, c'est forcément il y a ce risque de prendre une valise quand on s'expose comme ça. Là quand Liverpool mène 2-0 assez rapidement, on se dit oh là là, ça peut sentir mauvais aussi pour Brighton. Finalement ils ont ce caractère qui fait qu'ils reviennent dans le match à un moment important avec un but assez improbable, on va pas se mentir, c'est pas un but qu'ils vont mettre tous les week-ends non plus, mais enfin on espère qu'ils mettent un but comme ça tous les week-ends. Mais bon, voilà, après on est habitué à Brighton cette saison, voilà, ils sont 10e de Premier League. On va rappeler quand même qu'ils ont juste un point derrière Arsenal et United, par exemple, au classement. Donc, c'est pas une équipe. On peut pas être surpris quand on regarde Brighton cette saison. On sait à quoi s'attendre. On sait que c'est une équipe qui aime jouer. Et c'est pour ça qu'on apprécie aussi de les regarder avec Mopé en tête. Mais là, surtout Trossard aussi, qui a fait un énorme match contre Liverpool. Et on n'est pas surpris, en fait.
Oui, le plaisir dégagé par cette formation, Mathieu.
Oui, c'est ça. Ouais. Je me demandais si c'était pas même la meilleure équipe que Liverpool ait affrontée. Alors, ils ont fait 2-2 aussi à domicile face à Manchester City. Excellent match. Mais après, il y a eu aussi Chelsea qui avait été réduit à 10 contre 11 pendant toute une période. Donc, je me demandais si c'était pas vraiment la meilleure équipe tactiquement en dehors de City que Liverpool ait affrontée. Brighton qui défendait en coulissant, en reculant le moins possible. Salah qui était toujours prise à deux, il a vraiment eu du mal à s'exprimer, à part le tout début de match, passe décisive pour Henderson. Mais Brighton, sinon, ce sont des attaques très directes avec beaucoup de mouvements qui permettent de toujours libérer des joueurs pour avancer rapidement. Des latéraux comme Cucurella ou Lamptey qui est rentré en jeu et qui est malheureusement encore blessé, qui ont une énergie incroyable. Ils ont même marqué un troisième but sur hors-jeu et c'était une équipe hyper plaisante à voir. Ouais. Ça explique leur classement.
Brighton qui évoluera samedi prochain contre Newcastle à 18h30 quand Liverpool se déplacera à Londres pour y affronter West Ham. Londres en tête du championnat. Chelsea qui est le grand gagnant de ce week-end puisque les Blues se sont imposés 3-0 à Newcastle avec notamment un doublé de Reece James. Les joyeux de la couronne. Oui, on a appelé cette rubrique les joyeux de la couronne parce que c'est un moment très solennel dans PL Zone, rubrique mensuelle pour évoquer le plus beau but du mois. Nous sommes début novembre, nous pouvons donc parler des buts d'octobre. Nous avons fait une présélection d'une dizaine de buts au sein de notre rédaction pour en sortir 4 au final. Les 4 buts, vous pourrez voter pour déterminer votre plus beau but. Avant de vous donner le process précis, voici la liste des buts en question par ordre chronologique. Numéro 1, Mohamed Salah contre Manchester City le 3 octobre. Numéro 2, Mohamed Salah face à Watford le 16 octobre. Numéro 3, Youri Tielemans contre Brentford le 24 octobre. Numéro 4, Cristiano Ronaldo contre Tottenham le 30 octobre. Alors désormais, si vous avez peut-être un doute, vous ne vous souvenez plus exactement des buts, pas de panique, sur le site RMC Sport, vous allez pouvoir revoir les 4 buts et voter sur le site même afin de déterminer votre préféré. Et le plus beau but du mois d'octobre sera dévoilé le week-end prochain, samedi pour être précis, à la mi-temps du derby de Manchester, aux alentours des 14h15. La fin déjà de ce PL Zone de podcast épisode 3, il y avait plein de choses. Hein.
Ah ouais. Oh ouais.
On s'est régalé. Merci Flora, merci Loïc. Merci Mathieu en direct de Londres. Tristan, Samantha et Julie derrière la vitre. Et n'hésitez pas pour vos retours via le hashtag PL Zone sur Twitter, car ce podcast est le vôtre avant tout. Et surtout, n'oubliez jamais, come on you errands.